Bonsoir. Deux sujets sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. Nous serons d'abord à l'Assemblée nationale où nous allons revenir sur les débats amorcés jeudi dernier sur le rapport de la Cour des comptes portant exécution du budget 2013. Ensuite, nous parlerons de la suspension de la grève des transporteurs entre Kinshasa et Matadi, près de deux semaines après son lancement. Trois confrères participent à cet échange. Marcelin Mandouakila, directeur de rédaction au quotidien Forum des As, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Marcelin.
Bonsoir.
J.R. Mokolo, éditorialiste à Canal Congo Télévision, une chaîne qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir J.R.
Oui, bonsoir.
Georges Kassongo, journaliste à la radio Akiza Binada Moumaniema de Kindu. Bonsoir Georges.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission. Voyons comment la presse kinoise a traité ces sujets dans cette revue de presse de Berry Franklin Loutchaka.
Bonsoir à tous. Projet de loi sur la réédition des comptes 2013. La semaine dernière, il a été noté que le gouvernement a dépensé plus qu'il n'a réussi à mobiliser les recettes. Parmi les dépenses, il y a les fonds alloués à l'opposition qui ont été prévus mais pas envoyés aux porte-parole de l'opposition. Ainsi, la tempête des tropiques a noté lundi que le ministre des Finances a évité la question étant donné la pertinence des interrogations soulevées par les élus du peuple. Selon le confrère Patrice Kitebi, c'est contenté de donner des réponses d'ordre général au lieu des réponses précises sur les questions de l'Assemblée plénière. Pour l'Observateur du même lundi, au terme des explications fournies par le ministre des Finances, le président de l'Assemblée nationale a annoncé que son institution mettra tout en œuvre pour faire des recommandations au gouvernement en vue d'améliorer la gouvernance et la gestion des finances publiques. Voilà pourquoi le phare se demandait qui veut-on protéger en se référant à la manière dont le président de l'Assemblée nationale s'est débattu pour sortir de guépier. D'après le confrère, l'impression qui se dégage est qu'on a voulu sauver certaines têtes, probablement issues des rangs de l'opposition. D'où s'est exclamé le potentiel dans son édition de lundi, projet de budget 2015, c'est mal parti. Grève des transporteurs routiers de la ligne Kinshasa-Matadi, la presse en a aussi parlé, bien que le mouvement ait été levé ce jeudi. Pour rappel, les transporteurs routiers entre Kinshasa et Matadi étaient en grève depuis le 29 septembre dernier. Ils revendiquaient notamment l'application du protocole d'accord du 19 février 2013 qui prévoit notamment un salaire minimum de $300 pour le chauffeur et $150 pour le convoyeur. À ce sujet, l'Observateur remarquait mercredi que les transporteurs routiers était déterminé à obtenir gain de cause, tout en rappelant qu'en tout et pour tout, les transporteurs ont déjà grévé trois fois. Pour sa part, le potentiel indiquait mercredi que les discussions sur le barème salarial des chauffeurs et convoyeurs étaient en voie de reprise. Et dans d'autres sujets de la semaine, la presse kinoise s'est appesantie longuement sur la présence des militaires burundais sur le territoire congolais dans la zone de Kiliba au sud Kivu. La tempête de tropiques rapportait l'existence d'un accord secret entre Kinshasa et Bujumbura pour permettre à l'armée burundaise de mener des opérations contre les rebelles. De son côté, Africa News informé que pendant trois ans, l'armée burundaise avait un détachement au sud Kivu dans la plaine de la Ruzizi, officiellement pour combattre les rebelles burundais qui se revendiquaient du FNL.
Merci Berry Franklin Loutchaka. Marcelin Mandouakila, vous êtes directeur de rédaction au quotidien Forum des As, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Berry l'a dit, parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité, il y a notamment le retrait des troupes burundaises de la RDC.
Oui, c'est important. Le problème, c'est que chez nous, il y a parfois des accords secrets qu'on ne nous dit pas. Et c'est juste quand ça tourne mal que tout...
éclate au grand jour.
Oui, c'est un peu ça le problème. Bon, ils sont venus pour suivre de rebelles sur notre territoire. Est-ce que nous ne pouvions pas les renvoyer chez eux à travers des mécanismes qui sont connus? Ça pose problème. Bon, fort heureusement que, contrairement à l'armée rwandaise, l'armée burundaise n'a pas commis assez d'exactions ici contre la population, mais c'est quand même
mais
pas...
Mais la population s'en est quand même plein.
Oui, donc c'est ça un peu le problème. Je ne sais pas pourquoi une armée doit quitter son pays pour suivre des rebelles chez nous. Ça devait être l'inverse. Nous renvoyons les rebelles chez eux, ou ils vont dans un autre pays, pour que nous puissions être en paix avec nos voisins.
J.R. Mokolo, éditorialiste à Canal Congo Télévision, une chaîne qui émet depuis Kinshasa, sur le même sujet, quel est votre commentaire?
Oui, je note tout simplement que le Congo vraiment a beaucoup d'efforts à fournir pour retrouver sa place d'antan au sein de cette sous-région des pays des Grands Lacs. Vous savez, au nom du principe des géopolitiques et de la périphérie du centre, nous nous sommes les centres. Nous devrions en principe contrôler la périphérie. Mais il se fait que depuis quelques temps, c'est la périphérie qui nous contrôle. Et on arrive même à ce que des pays comme le Burundi puissent exercer le droit de poursuite sur notre territoire en temps normal, dans un pays qui fonctionne normalement, qui a une armée qui joue véritablement son rôle. Nous devrions tout simplement nous-mêmes nous prendre en charge tout ce qui, en tout cas, pénètre notre territoire. Donc le travail de pouvoir sécuriser les frontières nationales revient au FARDC. C'est sûrement que les FARDC ont montré des limites qu'on en vient maintenant à pouvoir autoriser des pays voisins, et pouvoir faire des entrées dans notre pays pour pouvoir exercer le droit de poursuite sur les rebelles. C'est vraiment dommage. Nous avons en tout cas beaucoup de travail à faire pour que nous puissions retrouver notre capacité de défense.
Georges Kasongo, journaliste à la radio Akiza Binadamu Maniema de Kindu. Quelle est l'actualité à Kindu, brièvement?
Deux grandes informations tout simplement. La première va commencer avec des chiffres. Selon un sondage réalisé par des étudiants SPA et quelques journalistes de la place, ils voulaient se rassurer si la question de la révision constitutionnelle tenait bien. Parmi les 2000 enquêtés, 90% ont été contre, 2% d'abstention et 6% pour le oui. Profitant de cette occasion, la composition de l'opposition INC et IDP Santès ont initié une pétition qu'ils vont adresser au Conseil de sécurité de l'ONU, donc de la Cour pénale internationale en transit, pour mettre responsable
civilement
et pénalement.
Oui, Georges, si tu peux bouger un tout petit peu, si c'est possible, parce que la qualité de ta ligne tend à se dégrader.
Et alors?
Oui, je crois que tu peux essayer de parler pendant que tu bouges. J'espère que ça va s'améliorer.
Voilà, donc c'est ça la pression de l'opposition qui déjà fait circuler une pétition qu'ils vont envoyer au Conseil de sécurité pour mettre en garde les initiateurs de cette initiative.
Georges?
Oui.
Mon cher Georges, essaie carrément d'aller un peu dehors si c'est possible, parce que là vraiment on te perd pratiquement. Alors pendant que tu fais ce petit mouvement, je redonne la parole à Marcelin Mandwekila. Marcelin, octobre 2014, ça fait une année que le président de la République a annoncé la formation du gouvernement de cohésion nationale et ça n'arrive pas toujours.
Oui, et puis on s'est demandé qu'est-ce qui reste de la cohésion nationale. Parce qu'en une année, on a remarqué qu'il y a des sons discordants au niveau de l'opposition. Il y a même des fissures au niveau de la majorité. Qu'est-ce qui reste de la cohésion nationale? Parce que l'élément moteur, l'élément qui devait symboliser la cohésion nationale, c'est-à-dire le gouvernement, n'a pas encore été mis en place. Moi, je crois qu'on a perdu beaucoup de temps. Si le chef de l'État avait agi à la fin de l'année dernière, quitte à voir comment opérer certains réglages aujourd'hui, ce serait une bonne chose. On a perdu beaucoup de temps pour rien.
Jérôme Okolo, on serait déjà très avancé si le président de la République avait finalement mis en place ce gouvernement, selon Marcelin.
Bon, en tout cas, on aurait peut-être vu la situation se clarifier, surtout du côté de l'opposition. On allait déjà savoir qui est resté dans l'opposition et qui a rejoint la nouvelle majorité présidentielle. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Un peu sur la fameuse cohésion nationale, on a vraiment senti que rien n'a été fait. Et la cohésion ne se décrète pas. La cohésion, c'est une série de comportements que les uns et les autres affichent et qui font que les gens se retrouvent, se considèrent en tout cas comme des compatriotes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que et ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont dans la majorité, se considèrent en tout cas comme des ennemis à mort. Voyez par exemple la situation de Fidel Babala, un député national, et la cour pénale internationale est prête à lui accorder une liberté provisoire, mais on se rend compte que son propre pays, la RD Congo, est en train de tergiverser pour donner un feu vert pour que Fidel Babala revienne, en tout cas passer son temps de liberté provisoire dans son pays. Ça démontre que les uns, les autres, les opposés, la majorité sont en tout cas de loin de pouvoir fumer les calomnies de la paix. Et que c'est dommage, en tout cas, ça a été un forum, je crois, inutile, qui n'a servi absolument à rien. Et un gouvernement qu'on attend pendant pratiquement toute une année, et des ministres qui sont dans l'incertitude, qui passent tout leur temps sûrement à voir comment sortir avec les poches pleines. plutôt que de se battre pour améliorer les conditions de vie de la population.
Georges Kassongo, est-ce que tu es toujours en ligne? Tu peux parler maintenant, voir si la ligne s'est améliorée.
Voilà, je suis en ligne. Je ne sais pas, vous me captez comment?
Bon, je dirais 3 sur 5.
Ok.
Tu nous parlais de la vice-ministre des droits humains qui était à Kindu.
Oui, donc la situation des établissements carcérales et au maniement a été résumée en ces quelques mots: lenteur administrative, paralysie de la justice, conditions infrahumaines des détenus.
Georges, là, on ne t'entend plus. Mon réalisateur va te rappeler, espérant que la ligne va s'améliorer. Entre-temps, on peut prendre notre premier thème de ce soir. L'Assemblée nationale a débattu jeudi dernier sur le rapport de la Cour des comptes portant exécution du budget 2013. Il ressort de ce rapport non seulement la difficulté du gouvernement à mobiliser les recettes prévues dans le budget 2013, mais aussi et surtout le fait que le gouvernement ait engagé des dépenses au-delà des fonds prévus dans le budget 2013. Plus de détails avec vous, Berry Franklin Loutchaka.
À la plénière du jeudi dernier à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont indiqué que la gestion du budget 2013 a été déséquilibrée. Dans une série d'interrogations au gouvernement, les élus du peuple ont fait remarquer l'incapacité du gouvernement à mobiliser les recettes, soit plus de 2 milliards de dollars américains pourtant prévus dans le budget 2013. Albert Fouilla, un des députés, affirme qu'avant de déclarer recevable un projet de budget, notamment celui de 2015, il faut connaître comment le précédent a été exécuté, et ce, grâce à la Cour des comptes, outil mis à la disposition de l'Assemblée nationale, tel qu'il l'explique.
Comment nous, les députés, allons-nous contredire notre organe technique? Nous avons, parmi les rubriques, celle ayant trait au fonctionnement du porte-parole de l'opposition, à qui revenaient 500 millions de francs congolais. Mais nous constatons que cette somme a été liquidée. Où sont parties ces sommes d'argent? Il y a des rubriques qui ont été exécutées à 500%, à 200%, alors que d'autres n'ont même pas connu un début d'exécution. Mais pourquoi?
À cette pile de questions, la réponse était, selon le député,
le ministre a fait la langue de bois, il n'a pas osé même rencontrer, même effleurer cette question. Nous trouvons que ce n'est pas normal.
Pour sa part, le ministre des Finances, Patrice Kitebi, a tenté d'assurer les élus du peuple en affirmant que le budget 2013 a été bien exécuté, hormis le dépassement observé dans certains secteurs, reconnaît-il. Ainsi, les députés proposent que les responsables de cette gestion soient entendu et sanctionné à travers une motion de défiance contre le ministre des Finances.
Merci Berry Franklin Loutchaka. Marcelin Mandouakida, la reddition des comptes fait couler beaucoup d'encre et de salive à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Oui, surtout quand lorsqu'on passe le temps à crier sur le toit, qu'on gère bien, c'est la bonne gouvernance. Mais il faut de temps en temps qu'il y ait ces ondes d'exercice pour démontrer aussi les limites du gouvernement, pour voir dans quelle mesure le gouvernement, plutôt que d'exécuter le budget comme cela a été prévu par l'Assemblée nationale, le gouvernement va souvent ailleurs. Comment expliquer la disparition des fonds réservés à l'opposition politique? L'opposition n'a pas de porte-parole. Logiquement, ces fonds doivent rester jusqu'à ce qu'on ait un porte-parole. Mais qui dépense cet argent au nom de quel principe? C'est ça aussi le problème. Donc, et puis la faible mobilisation des recettes, ça pose vraiment problème. Parce que comme je l'ai toujours dit, c'est le jour où on atteindra 15 milliards de dollars de budget national, je dirais que la RDC maintenant est sur la bonne voie.
Mais le gouvernement, ou du moins certains cadres de la majorité, justifie l'utilisation de ces fonds par certaines urgences auxquelles le gouvernement a dû faire face.
Moi je crois que dans chaque budget, il y a une marge d'imprévu. Il y a toujours une marge d'imprévu. Ce n'est pas normal qu'on mobilise très peu de recettes et qu'on dépense beaucoup. Quelle était la marge d'imprévu? Il ne me dit pas que la structure que François Mauva dirige est tellement budgétivore. Je ne le pense pas. Moi, je crois que c'est plutôt... On a un problème, on a plus de dépenses politiques dans ce pays. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce qui fait que parfois, le social en pâtisse. Il y a plus de dépenses politiques et de dépenses à caractère social. Mais un budget doit prévoir aussi des imprévus, une catastrophe peut arriver et beaucoup d'autres obstacles au développement du pays. Ça doit être prévu dans la marge des imprévus. Et on ne peut pas, lorsqu'on a prévu un budget, aller à l'écart ou en dehors de ce qui a été prévu. On dit que le ministre a développé la langue de bois, c'est normal. Il ne peut pas dire la vérité, sinon ça va pousser les députés à s'en prendre au gouvernement.
J.R. Mokolo, il y a plus de dépenses politiques sociales, selon Marcel Amandouakila. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, parce qu'il y a beaucoup de structures qui ne font absolument rien pour la production, par exemple, des recettes. Vous allez voir que même dans notre constitution, on a prévu beaucoup d'institutions avec beaucoup de gouvernements provinciaux, des assemblées provinciales, tout ça. Donc, ça demande beaucoup d'argent. Mais revenons un peu à cette reddition des comptes. Le ministre n'a pas pu dire la vérité sur ce qui s'est passé. Et c'est un journaliste qui a révélé que non, cet argent-là avait été affecté pour le fonctionnement du mécanisme de suivi. Et ce n'est pas normal que le ministre ne puisse pas dire la vérité. Et quand vous évoquez par exemple le fait que le budget prévoit que le gouvernement puisse mobiliser autant, dépenser autant, et donc le Parlement prévoit ça dans le budget, et le gouvernement fait autre chose. Ça veut dire que le gouvernement ne tient même pas compte de ces parlements. Donc ce budget-là, c'est juste une simple formalité et que les dépenses se font en dehors même de la chaîne de dépenses. Parce que si, par exemple, on n'avait pas prévu dans le budget quelque chose pour faire fonctionner ces structures, les mécanismes de suivi des accords d'Addis Abeba, qu'est-ce qu'on devait faire? Il fallait que le gouvernement rentre au niveau de l'Assemblée nationale, du Parlement, fasse une loi de finances rectificative. Voilà, nous avons l'autorisation pour faire ça, mais on ne sait pas le faire, il y a d'autres imprévus. Voilà, est-ce que vous pouvez nous autoriser que nous puissions prendre, par exemple, l'argent qui était prévu pour les porte-parole de l'opposition, qui n'existe pas encore, pour que nous puissions l'affecter à une autre structure qui est née après qu'on ait déjà voté le budget. C'est comme ça se passe. Ça veut dire que le Parlement aujourd'hui ressemble à une simple chambre d'enregistrement. Et je me dis, pourquoi est-ce que le président de l'Assemblée s'est battu pour faire passer pratiquement au forcing ces projets de loi portant reddition des comptes? Donc un projet qui n'a même pas eu l'aval de la Cour des comptes, qui est un organe technique de l'Assemblée nationale. Ça démontre que vraiment ce gouvernement ne tient pas compte des affaires et considérations de l'Assemblée nationale et que c'est juste une simple chambre d'enregistrement et qu'on leur donne un budget, des autorisations pour collecter des recettes et dépenser, arriver sur terrain. Ils ne tiennent pas compte de ces papiers-là. Pratiquement, on les jette dans la poubelle et on fait autre chose.
Georges Kassongo, est-ce que vous nous suivez?
Oui, je vous suis très bien.
Voilà, j'espère que la ligne va rester de bonne qualité. Georges, il y a ce débat autour de la reddition des comptes au niveau de l'Assemblée nationale, le gouvernement qui a effectué beaucoup plus de dépenses dans certaines rubriques, et d'autres n'ont même pas connu un début de réalisation. Comment vous analysez ce fait?
Ok, le problème de notre État en ce qui concerne les budgets ou les finances, il y a trop peu d'orthodoxie budgétaire, c'est ce que nous constatons, nonobstant la chanson de chaque jour, la bonne gouvernance. Mais en ce qui concerne la bonne gouvernance, nous pouvons dire normalement que c'est le souci de traçabiliser les recettes et les dépenses. Et dans tout cela, il y a une seule démarche, c'est l'honnêteté. Ce ne sont pas des factures gonflées ou quoi, mais ce qui se passe là-bas, lorsque on se donne le pouvoir de fonctionner dans certaines rubriques du budget pour affecter dans l'autre sans informer l'autorité budgétaire, et vous savez le terme, le français est clair, le terme est connu. Alors, devant ce cas de figure, que pense l'autorité budgétaire lorsque l'exécutif commence maintenant à dépenser sans lui avertir? Ça s'appelle comment? Et je crois que les honorables députés ont leur réponse à donner là-dessus. Donc, nous sommes dans l'un ou l'autre cas de figure. Et c'est à l'autorité budgétaire de tirer des conclusions. Mais en dehors de tout cela, de temps à autre, la presse chinoise, que nous avons l'honneur de suivre tout le temps, ne cesse de décrier les dépassements budgétaires, surtout dans les institutions politiques. On parle de 300, 400, 500% de dépassements budgétaires. Et vous voyez ce que ça fait lorsque nous avons un maigre budget tel que nous l'avons là. Et vous savez. Alors, le fait de prendre l'argent, par exemple, destiné au porte-parole de l'opposition qui a statué des ministres,
et l'affecter au mécanisme national de suivi des accords d'Addis Abeba. Et vous savez ce que ça s'appelle, sans l'aval de l'autorité budgétaire. C'est là où il y a les problèmes, sans l'aval. Alors c'est à l'autorité d'affirmer son autorité sur les budgets ou bien de continuer à raisonner l'action du gouvernement pour juste dire ceux qui ont l'habitude de dire que c'est une pièce de résonance et maintenant raison. Et nous pensons que notre assemblée, nos représentants n'auront pas à se faire laisser comme ça, ils auront à tirer quelques conclusions. Alors, de tout cela, on se demande quelle est la fonction remplie par la Cour des comptes, l'inspection des finances et l'autorité en dernier lieu. Donc, nous pensons qu'il y a quelque chose comme dysfonctionnement où l'exécutif, ses évaluations, l'exécution de ces budgets n'est pas donnée à temps à la Cour des comptes pour vérifier la régularité et la légalité des recettes et des dépenses. Donc, à ce niveau, il y a quelque part un doute qu'on laisse planer, soi-disant que vraiment ça ne fonctionne pas très bien à ce niveau. Et aussi le gouvernement qui ne fait que déclamer au fort la bonne gouvernance, la technocratie, nous pensons que cette façon de faire diffère normalement avec la chanson de tous les jours, le moment où jamais déguiser la démarche et de voir dans quelle mesure maintenant on peut aussi rétablir les choses à la normale.
Alors Georges, certains observateurs ont également estimé que le procureur général de la République devrait se saisir d'office de ce rapport. Que faut-il en dire finalement?
Oui, le procureur de la République, procureur général de la République, comme la justice dans son ensemble ici chez nous, elle est ce que Lumumba déjà en 1960 avait décrié. Une justice clémente pour les uns et cruelle pour les autres, c'est pas moi, c'est Lumumba qui l'avait dit il y a déjà 54 ou 55 ans. Voilà, c'est ce que nous sommes en train d'assister jusqu'à présent. C'est-à-dire que les idées de Lumumba restent toujours à la page. Les magistrats debout, qu'on appelle donc, qui entourent les procureurs généraux, devraient d'office saisir du dossier et ne pas attendre, mais cela ne sera jamais le cas. Nous sommes dans l'un ou l'autre cas de figure que je n'ai pas voulu dire, mais les Français ont prévu des mots clairs qui sont là et aussi à la justice de trouver l'infraction qui correspond à cet acte. C'est tout. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à faire quoi. Il est là, il est payé pour ça. Il a été prompt pour certains problèmes, mais nous pensons qu'il le sera également pour cet autre problème.
Marcel Mandouakila, finalement, à quoi sert le contrôle parlementaire dans tout ça?
Le vrai problème, c'est, comment on appelle ça, l'obédience politique. Même lorsqu'un ministre commet des fautes et qu'il est de la majorité au Parlement, le camp de la majorité fait front commun.
Le protège
face à l'opposition.
Et on ferme les yeux.
C'est ça le problème. Or, on devrait, dans le cadre de la bonne gouvernance, savoir sanctionner. Que ce soit le premier ministre, que ce soit un ministre.
Quel qu'il soit.
Oui, on devrait le sanctionner pour la bonne gouvernance. Et d'ailleurs, au niveau de la majorité, ce n'est pas des cadres qui manquent. Ce n'est pas des compétences qui manquent. Mais le fait de dire... Mais ce qui s'est fait, ça s'appelle détournement, en français. C'est-à-dire qu'un fonds prévu pour l'opposition, on l'affecte au niveau du mécanisme national de suivi, sans l'aval de l'autorité budgétaire, ça s'appelle détournement. L'Assemblée nationale devrait taper du poing sur la table et dire au gouvernement, messieurs, quand nous avons établi un budget, vous devez le respecter. Et même prévoir des sanctions au cas où ce n'est pas fait. Mais chercher toujours à protéger ceux de la majorité, ça fausse la démarche qui nous mène vers la bonne gouvernance. Donc il revient au Parlement de le dire clairement au gouvernement. Parce que même l'année passée, pour la reddition de comptes ou pour l'examen du budget précédent, il y avait toujours des problèmes. On a toujours des choses à couvrir. Donc ça ne favorise pas la bonne gouvernance. L'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités. C'est vrai, ce budget n'a pas été exécuté comme il faut. Et il ne faut pas vite me classer dessus dans le tiroir. Il faut faire des recommandations précises. D'abord faire remarquer au gouvernement qu'il y a eu détournement. Et que cela ne doit plus se répéter. Et que prochainement, si on crée une autre structure qui a besoin des fonds, c'est au gouvernement de rentrer à l'Assemblée nationale dont il est l'émanation pour demander
et qu'on revoie un peu la loi des finances, comme Gilles l'avait dit, prendre d'autres dispositions afin de combler peut-être quelque part le déficit. Mais quand le gouvernement a les mains libres pour faire tout ce qu'il veut, sans demander l'aval de l'Assemblée nationale, c'est que l'Assemblée nationale devient une caisse de résonance de la majorité.
Alors, hier, Mokolo, il y a d'autres observateurs qui pensent que cet exercice de reddition de comptes, tel qu'il se passe à l'Assemblée, faudrait le mettre sur le compte de l'apprentissage de la démocratie.
En tout cas, nous sommes pratiquement en éternel apprentissage. Je ne crois pas que la reddition des comptes est prévue aujourd'hui. Ce n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qui est prévu depuis longtemps, mais ça n'a jamais été respecté. On dit par exemple qu'au plus tard, le 15 mai, il faut qu'on dépose des projets de loi portant reddition des comptes pour que ça soit pratiquement discuté au cours de la session de mars, pour que la session de septembre soit consacrée vraiment au budget pour les nouvelles exercices. Mais on en est aujourd'hui à discuter de le projet de loi sur la reddition des comptes. On va y passer beaucoup de temps là-bas et on risque par exemple de renvoyer le budget à une session extraordinaire. Je reviens un peu à ce que notre collègue Georges Kassongo a dit en citant le héros national Méry-Basile Lumumba sur sur notre justice qui est cruelle pour les uns et complaisante pratiquement, voilà, clémente pour les autres. Ça dénote en fait de l'esprit partisan dans la gestion de la chose publique. Et pratiquement les Congolais, nous avons des difficultés pour pouvoir dissocier notre appartenance à une famille politique et notre position au sein de l'État. Donc on en est pratiquement à une espèce de parti-État qui ne dit pas son nom. Parce que vous allez voir des ministres qui sont autorités morales d'un parti politique et des ministres qui sont à la tête des associations de soutien, par exemple, d'un leader politique. Vous allez voir le président de l'Assemblée nationale qui est en même temps président d'une institution et le numéro un d'une famille politique. Or, en principe, quand on gère une institution de l'État, on doit se mettre au-dessus de la mêlée. On est président de la République, par exemple, de tous les Congolais et de ceux qui ont voté pour vous et de ceux qui n'ont pas voté pour vous. On est ministre de tous les Congolais. Mais nous, on voit ici, quand quelqu'un est ministre, il considère qu'il est ministre seulement de ceux qui sont de la majorité présidentielle. Et quand vous êtes dans une entreprise publique, par exemple, pour donner de la publicité, vous allez voir à des chaînes de télévision ou des radios ou à des journaux, il faut voir d'abord est-ce que ces journaux et de quelle obédience. Donc c'est cela le problème. On doit arriver à dissocier les affaires de l'État à nos affaires privées des partis politiques. Merci. Et là, le Parlement, si on essaie d'adopter ce nouvel esprit de gouvernance, on va voir par exemple qu'un ministre qui a fauté, le parlementaire veut le sanctionner sans tenir compte qu'il appartient à un même parti politique que nous.
Georges Kassongo, avant que l'on aborde notre deuxième thème, quelles leçons peut-on tirer de ce débat autour de la reddition des comptes à l'Assemblée nationale?
Voilà. La grande leçon, c'est de savoir que dès qu'on est président de la République, président de l'Assemblée, ministre, on laisse d'être membre d'un parti politique. Cette confusion qui rime, qui marche très bien, où le ministre trouve beaucoup de comptes à rendre à sa formation politique par rapport au peuple, hein, ou à la nation, au souverain primaire. Vous savez, c'est une grave contradiction avec laquelle nous voyons les conséquences maintenant. Donc, ce qu'il faut dire, il ne faut pas toujours chercher cette échappatoire de dire l'apprentissage de la démocratie. Mais nos dirigeants sont plus vieux que des jeunes qui dirigent les vieilles démocraties en Europe. Donc, ils ont tous les temps. Alors, ils le font sciemment, soit disant que nous allons la prendre jusqu'à quand elle a daté de plus de 24 ans. Et vous voyez ce que ça fait. Donc, la leçon que nous devons avoir maintenant, c'est la justice sortir de son silence et montrer son indépendance, parce que la justice crie chaque jour, oh, indépendance. C'est maintenant le moment ou jamais de sortir de ce silence-là pour montrer qu'une justice est indépendante et tirer les conclusions devant des choses comme ça.
Merci.
Et surtout aux dirigeants de cesser de se considérer comme des membres, des obédiences et des esprits, mais croire que c'est le peuple qui est le patron, il doit rendre compte loyalement et fidèlement en bon serviteur du peuple et devant ce souverain primaire qui attend toujours, parce que normalement le train a décollé de la gare, donc le train est en marche, comme on aime dire, mais le peuple est resté sur la gare de départ.
Merci,
pendant que
Georges.
Les dirigeants sont au-delà des Kamina déjà, et vous voyez ce que ça fait.
Voilà, merci Georges. C'est avec vous que nous commençons le deuxième thème de ce soir. Les transporteurs routiers sur la route de Kinshasa-Matadi suspendent leur mouvement de grève. Annonce ce jeudi à Matadi de la Force ouvrière du Congo, FORC, syndicat des chauffeurs et convoyeurs des véhicules poids lourds. Selon le président de la FORC, il est question de donner la chance aux discussions qui se tiennent à Kinshasa sur le barème salarial et les primes des chauffeurs et convoyeurs. Pour parler prévu pour 3 semaines, André Tchikoge au micro de Guy Roger Nyampala.
Ses amis sont fatigués. Ce sont des pères de famille. On ne peut pas continuer avec des histoires à demi-mesure. Nous avançons d'un pas, nous reculons deux pas en arrière. Les engagements sont les engagements. Nous, routiers, nous sommes des responsables. Aujourd'hui, c'est la 4e fois qu'on nous demande quelque chose. Et par respect à nos autorités, nous le faisons toujours. Et demain. Donc, on nous évite des grèves à répétition. Mais qu'on respecte les engagements. C'est ce que nous demandons. Aujourd'hui, il y a un allègement au niveau du péage. Il y a le verrou de mitaine déjà pris. Les patrons sont parvenus à une solution avec le gouvernement. Mais tout l'argent qu'ils vont récupérer au péage là, ils doivent être conséquents pour donner des salaires corrects. Non seulement aux chauffeurs et convoyeurs, mais il y a tout ce travail du secteur des transports routiers. C'est tout ce que nous leur demandons.
J.R. Mokolo, vous êtes éditorialiste à Canal Congo Télévision, une chaîne qui émet depuis Kinshasa. C'est la 4e fois qu'on aura levé la grève des transporteurs. André Tchikoge, vous l'avez suivi. Il n'est pas très positif, visiblement.
Oui, bon, en tout cas, ils ont voulu, je crois, sûrement tester la bonne foi des autorités et même des chefs d'entreprise des transports routiers pour voir cette fois-ci si vraiment ils vont respecter les engagements pris. Depuis un beau temps, ça démontre que ceux qui gèrent en tout cas les affaires dans ces pays prennent beaucoup de liberté avec les droits de leurs travailleurs et cela à la barbe des autorités gouvernementales, c'est pas normal. Bon, je pense qu'on pourra trouver une solution. Mais si par exemple les grévistes avaient poussé leur grève jusqu'au bout, et qu'on manquait, par exemple, de quoi se nourrir ici, je crois que ça poserait des problèmes. C'est parce qu'à un certain moment, ils arrêtent et que ça n'a aucun, peut-être aucun impact sur l'approvisionnement de Kinshasa et d'autres centres que le gouvernement ne sait pas vraiment prendre cette affaire-là très au sérieux. Mais ne les pousse pas à radicaliser leur mouvement, mais ce serait quand même bon qu'on puisse prendre... trouver une solution définitive à ces problèmes.
Mais vous avez suivi André Tchikoge lui-même dire que ces gens sont fatigués, ce sont des pères de famille, tenir une grève, ça a des conséquences aussi.
Tout à fait, parce que bon, ils étaient sûrement habitués aussi, bon, quand ils faisaient leur trafic Kinshasa-Matadi, bon, à transporter des passagers clandestins, tout ça, bon, donc vous savez, cette histoire des grèves, c'est partout. Mais moi, je vais donner une solution définitive. Vous savez, la route Kinshasa-Matadi n'a pas été construite pour en tout cas c'est ce genre de trafic. Il y avait les trains, dont le port de Matadi, c'est un port de transit. Toutes les marchandises arrivent au port de Matadi et c'est les trains qui les embarquent jusqu'à Kinshasa. Toutes les opérations devaient se faire à Kinshasa. Mais comme au Congo, on tue la société nationale pour laisser place aux privés et qui font maintenant pratiquement du n'importe quoi. Donc on doit relancer la société nationale des transports. Donc on attrape. Et les tronçons du chemin de fer Kinshasa-Matadi doit être relancé pour que le port de Matadi retrouve en tout cas sa vocation d'antan, c'est-à-dire un port de transit. Toutes les marchandises seront transportées de Kinshasa, de Matadi à Kinshasa par voie ferrée. Et là, je crois qu'on n'aura plus besoin en tout cas de beaucoup de poids lourds qui font les trafics Kinshasa-Matadi, qui causent beaucoup d'accidents, même l'encombrement de ces chaussées-là.
Marcelin Mandouakila, directeur de rédaction au quotidien Forum des As, un quotidien qui parie à Kinshasa. Depuis les dernières négociations au mois de février 2013 entre les transporteurs et leurs employeurs, avec le gouvernement comme témoin, prévoyait une prime de $300 pour le chauffeur et 150 pour le convoyeur. Mais les transporteurs se plaignent que certains patrons n'ont jamais respecté cette clause au vu et au su du gouvernement.
Vous savez, le véhicule remorque, ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis très longtemps. Mais la différence aujourd'hui, c'est quoi? Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. C'est un secteur qui commence à être pris en otage par des sujets libanais. Je m'excuse de citer les noms. Ce sont ceux-là qui ont signé des accords et qui refusent de les appliquer. Ça veut dire que le gouvernement est faible. À l'époque, en 2013, j'étais dans le Bas-Congo, ils ont refusé de négocier avec le gouverneur sur place. Il a fallu qu'ils viennent à Kin voir le premier ministre. On fait un protocole d'accord. Ils signent. Ils n'ont jamais appliqué. Et le gouvernement ne sait pas leur imposer l'application de ce protocole d'accord. Moi, ça me déçoit complètement. Le gouvernement devait apprendre à taper du poing sur la table. Monsieur, vous êtes dans un pays organisé qui a ses lois, vous devez appliquer ces lois. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Quatrième grève. Les transporteurs sont fatigués, ces chauffeurs-là. Ils sont fatigués, ils prennent beaucoup de risques. Quand tu circules la nuit sur la nationale numéro 1 qui te chasse à Matadi, dernièrement j'étais à Kimpese. J'ai vu le long de la route des sacs de foufous qui attendaient ce genre de véhicule depuis des jours. C'est parce qu'on n'est pas en situation de rupture de stock à Kinshasa qu'on en parle encore comme ça. Moi, c'est le gouvernement que je condamne dans cette affaire. Ces gens qui ont pris des engagements doivent, d'une manière ou d'une autre, le respecter. Et c'est au gouvernement de faire appliquer ces protocoles d'accord. Et d'arrêter de faire souffrir les chauffeurs et les convoyeurs comme ça.
Georges Kassongo, journaliste à la radio Akiza Binadamu, Maniema de Kindu. Comment vous suivez cette actualité à partir de Kindu?
Voilà, cette actualité a des implications jusqu'au niveau de Kindu, dans la mesure où les transporteurs routiers sont devenus pratiquement l'épine dorsale de notre économie. Sachez que beaucoup de choses proviennent à partir de Kinshasa. Mais il est question ici de voir pour les employeurs et de considérer également que les travailleurs ne sont pas des outils, mais des personnes. Ils méritent considération et un traitement honorable étant que des pères de famille. Ils ont pris des engagements devant les gouvernements. Et ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ça contraste avec les engagements pris devant le ministre national du Travail. Vous voyez ce que ça fait. Donc nous sommes dans un cas de figure où il y a des employeurs dans ces pays, ou bien comme on aime le dire, les investisseurs, qui défient l'État et qui piétinent les employés. Vous voyez la chose dans laquelle nous sommes. Et cela a comme origine, oui, quelle est l'origine de cette situation? C'est que chaque jour on inaugure des nouvelles locomotives, un pas neuf, comme on aime le dire, et c'est chaque jour que les trains ne marchent pas. Moi, j'ai longtemps pratiqué cette route, et vous voyez que de Kinshasa jusqu'à Matadi, il y a une voie ferrée qui est là. Mais qu'est-ce qu'on attend? Où sont passées les nouvelles locomotives, un pas neuf, comme on aime le dire? Vous voyez ce que ça fait? Donc, c'est quelque part, le gouvernement, dans sa part de responsabilité, devrait faire au moins, ou bien pousser les volumes au fond de la caisse, pour voir qu'est-ce qui est normalement, qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette méfiance de nos investisseurs, surtout d'origine indo-pakistanaise? Pour ne pas les discriminer, on n'est pas dans des propos discriminatoires, mais au moins, ces gens-là ont pour spécialité de défier l'État, piétiner les citoyens, et cela ne doit pas continuer jusqu'à la fin du monde.
Alors, Georges,
de les mettre devant leurs responsabilités, leur dire, messieurs, nous sommes dans un état de droit, vous aviez pris des engagements, vous les aviez signés, et ici, on attend de vous que de les appliquer. Mais lorsqu'on n'arrive pas à dire cela, devant un homme qui a choisi le pays comme sa deuxième nation, vous voyez ce que ça fait? Les travailleurs, nous les travailleurs, souvent on se sent trahi par le pouvoir public. Le pouvoir public devrait jouer cette carte d'équilibre pour ne pas laisser les pauvres exploiter par les riches. C'est au moins ce qu'on devrait faire malgré le libéralisme économique qu'on est en train de prôner dans ce pays.
Donc,
l'État devrait jouer son rôle de sapeur-pompier. Mais lorsque l'État laisse comme ça, je m'imagine, je ne suis pas à Kinshasa, mais je sais qu'au moins 90 à 80% de ce qu'on mange à Kinshasa provient de Matadi. Et lorsque la grève dure des semaines et des semaines, je sais à quoi ça ressemble. Même si je ne suis pas au marché de Gambela, je sais qu'il y a les signaux et qu'on sort.
Merci, Georges.
Vous, plus de l'ascenseur, c'est ça. Et la population, la très pauvre population, qui n'a pas d'emploi ni de salaire, c'est elle qui empathie devant cette situation.
Merci.
Donc, il y a l'autorité de sortir toujours de son silence coupable.
et de prendre les décisions ou bien de faire appliquer le mesure idoine capable de protéger ses citoyens devant l'exploitation d'île capitaliste, c'est au moins ce qu'on devait faire.
Merci Georges. Marcelin Mandakila, Jir Mokolo a proposé comme solution la relance du transport ferroviaire entre Kinshasa et Matadi.
Oui, la relance du transport ferroviaire ne signifie pas qu'on voudrait tuer les transports routiers. Non. Les deux vont ensemble. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le train peut fonctionner. On a aussi des véhicules remorques. C'est comme ça que depuis l'époque, on avait fait en sorte que ces véhicules ne roulent que la nuit pour éviter de gêner aussi la circulation. C'est vrai, c'est l'occasion aussi de se dire, il faut relancer, comment on appelle ça aujourd'hui,
la SCPT.
La SCPT, c'est l'occasion de relancer les réseaux ferroviaires de manière à équilibrer. Pas chasser les véhicules remorques, non. Ils seront toujours là. Mais il faut équilibrer. Qu'il y a des marchandises ou des véhicules, ça dépendra, qui viennent par train, d'autres peuvent aller par route. En cette période, par exemple, quelle aurait été la solution palliative par rapport à la grève? Les transports ferroviaires. Mais ça pose problème. Donc, c'est le moment de penser à ça et de relancer, pour ne pas avoir, Georges l'a dit, des wagons pimpants neufs et qui tombent en panne tous les jours. Je crois que c'est l'occasion de relancer ce secteur.
Alors, conclusion, un mot de conclusion par rapport aux deux thèmes qu'on a eu ce soir, Marcel Mandakila.
Je pense que l'Assemblée nationale doit éviter de jouer à une caisse de résonance de la majorité présidentielle. Nous devons voir la bonne gouvernance. Quand il y a des fautes, quand il y a des manquements, il faut sanctionner pour que les gens apprennent à se corriger. Pour ce qui est de la grève des transporteurs, moi je condamne d'abord le gouvernement qui n'a pas su appliquer les protocoles d'accord que les partis avaient signés. Moi je crois que le gouvernement doit taper du poing sur la table. Il y a les pourparlers, mais les pourparlers c'est pour évaluer le degré d'application des protocoles d'accord. Dis messieurs, on s'était mis d'accord pour ceci, vous ne l'avez pas fait, nous vous donnons un ultimatum de 2 mois, 3 mois, vous devez vous mettre en règle avec le protocole d'accord.
Jérôme Colo, conclusion.
Oui, le gouvernement étant l'émanation de l'Assemblée nationale, il faut vraiment que le Parlement arrive quand même à se faire respecter de la part du gouvernement pour qu'on n'assiste pas à de tels spectacles. Un ministre qui vient et il n'arrive pas à expliquer pourquoi est-ce que l'argent qui était destiné, par exemple, à la rubrique porte-parole de l'opposition s'est retrouvé au mécanisme de suivi des accords de Lusaka. Il l'a même pas expliqué. Et c'est un journaliste, Jérôme Sakana, pour ne pas le citer, qui l'a fait à travers les médias et c'est pas normal. Donc, il faut cesser vraiment d'être complaisant. On ne gère pas l'État de cette façon-là. La bonne gouvernance, il ne suffit pas seulement de le proclamer, mais il faut vraiment le vivre au quotidien.
Georges Kassongo, conclusion.
Oui, comme technocrate et comme veulent s'appeler nos ministres, c'est travailler sans état d'âme, appliquer les normes et les principes de gestion au lieu de s'engouffrer dans les obédiences et les conseils politiques. Ils doivent faire preuve de beaucoup plus de méthodes et de systèmes que des alliances autour de la chose de l'État.
Merci.
Croire qu'on doit rendre les comptes à la population et non aux partis politiques.
Merci.
Et la force, donc l'État, pour ce qui est de la force routière du Congo, ils sont en droit, l'article 36 les garantit, cette liberté d'association, de grève et consorts.
Merci,
mais
Georges.
Aussi à l'État toujours de conseiller la population et ne pas la laisser exploiter par les capitales. Voilà.
Merci, chers confrères, d'avoir participé à cette émission. La tribune de la presse s'est terminée pour ce soir. Réalisation Berry Franklin Luchaka, la technique Alain Goy, supervision Julien Yamouini, présentation et coordination Alain Roumouchige. Au revoir.